Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Alors, Olivier Légal, bonjour. Bonjour, major Monique. Légal, je dirais. Bonjour. Je dirais, parce que vous êtes toujours major, bonjour, bien que jeune retraité. Nous reprenons donc nos entretiens autour de tout ce qui concerne le travail, la formation, le travail, tout ce que font les pompiers en France et même hors de France. On pourrait dire qu'ils interviennent aussi dans certains pays étrangers. Et puis cet été, on l'a vu, ils sont beaucoup intervenus dans nos régions, dans nos vignes en particulier. Et puis ils interviennent constamment. On a l'impression qu'ils sont partout. Partout, même j'ai vu un reportage dans les Alpes, ils étaient en hélicoptère et ils ont effectué un hélitreuillage pour une femme qui s'était blessée en montagne. Enfin bon, ça n'arrête pas quoi. Vous êtes toujours...
Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Alors, oui, alors pour les hélitreuillages en montagne, en général c'est le peloton de gendarmerie de haute montagne, le PGHM qui fait ça, qui dépend de la gendarmerie. Oui. Mais pour parler des hélicoptères avec les pompiers, si c'est dans des endroits plus accessibles, moins hauts, en altitude, bien sûr, vous avez des équipes d'hélitreuillage également qui peuvent effectuer ce travail.
Alors, on a vu que la profession se professionnalisait, si je peux dire, de plus en plus. Et on parlera d'ailleurs de la formation dans la lutte contre l'incendie, dans les techniques de réanimation. On a vu aussi que... il y avait des noms, on en a parlé hors antenne, il y avait deux noms qui sonnent clairs dans la formation, je pense, celui du caporal François Thibault et celui du général Cassot. Est-ce que vous pouvez m'en dire un mot?
Ah, alors le général Cassot, c'est celui c'est le premier général, puisque... La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est commandée par un général. Et quand, en 1968, le régiment est devenu brigade, le général Cassot a été le premier commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Alors ce monsieur-là, il a marqué l'histoire de par ce fait-là, mais également par l'éthique qu'il a écrit l'éthique du sapeur-pompier de Paris, parce que le fait qu'on soit militaire, eh bien, on a d'une part la fierté d'être sapeur-pompier, mais aussi une adhésion à beaucoup de valeurs. Donc la devise, l'éthique, le drapeau, la Marseillaise, on a également un appel des morts au feu, on fait l'appel des morts au feu tous les lundis matins dans nos casernes. Voilà. Donc, et on est aussi, par rapport à un pompier civil, on a ce qu'on appelle une disponibilité en tout temps et en tout lieu. Ça, c'est la disponibilité du militaire.
Quelle est la devise?
Alors, la devise, c'est sauver ou périr. Voilà, sauver ou périr. Alors, bien sûr, ça, sauver, on comprend, ou périr, mais il s'agit d'aller au bout de la mission. C'est ce qui caractérise le fait de dire on va jusqu'au bout de la mission.
Une forme, un sens de sacrifice.
De sacrifice, certes. Mais cependant, puisqu'on va aborder le côté formation, ben cette formation-là va mettre tout en œuvre pour que, bien sûr, le pire n'arrive pas, même si quelquefois ça peut arriver. Donc c'est cette notion d'aller jusqu'au bout de la mission. Voilà. Alors l'éthique, on parlait du général Cassot, et c'est vrai qu'hors antenne... Je vous ai proposé de la lire parce que je la trouve magnifique. Et donc, c'est le général Cassot qui l'a écrite. Il a commandé le régiment, puis la brigade, de 1963 à 1970. Et donc, je vais vous lire l'éthique du sapeur-pompier de Paris. « Je ne veux connaître ni ta philosophie, ni ta religion, ni ta tendance politique. Peu m'importe. Que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre, français ou étranger. Si je me permets de te demander quelle est ta peine, ce n'est pas par indiscrétion, mais bien pour mieux t'aider. Quand tu m'appelles, j'accours, mais assure-toi de m'avoir alerté par les voies les plus rapides et les plus sûres. Les minutes d'attente prêteront longue, très longue, dans ta détresse, pardonne mon apparente lenteur. Général Cassot.
C'est un texte très émouvant et je trouve qu'il résonne bien dans les studios de Radio Présence. Merci. Ben, merci
vrai.
Particulièrement.
C'est vrai.
Voilà, alors on a parlé de François Thibault aussi,
oui.
Qui lui était caporal, je crois.
Alors le caporal Thibault, effectivement, dans le cadre de la formation, c'est quelqu'un qui est cité en exemple, hein, puisque c'était dans les années 1860 que on met en avant ce personnage parce qu'il a fait preuve d'un tel courage sur un incendie d'un immeuble parisien. Eh bien, plusieurs fois, il est monté dans les étages à l'aide de ce qu'on appelle une échelle accrochée. C'est une échelle qui est recourbée, aux deux extrémités, aux deux montants supérieurs qui sont recourbés, de manière à pouvoir monter de balcon en balcon. On accroche sur le balcon, on monte et on gravit comme cela les différents étages. Et lui, plusieurs fois, eh bien, il est allé faire des sauvetages. Il est redescendu, il est remonté, il est redescendu. Il a effectué comme ça plusieurs sauvetages jusqu'au bout de la mission. Donc, depuis ces années-là, eh bien, le caporal Thibault reste une figure du régiment de l'époque, avec cette abnégation et ce courage jusqu'au bout.
Que l'on peut saluer. Et dites-moi, les femmes sont admises maintenant?
Alors oui, je l'ai tout à l'heure mentionné, la BSPP comprend 8700 hommes et femmes. Actuellement, il doit y avoir environ 4% de femmes. Chez les pompiers civils, j'ai noté que c'est plutôt 20% de femmes, puisque entre les pompiers volontaires et les pompiers professionnels, nous avons 20% de femmes. Mais nous, cependant, 4% de femmes environ sont à la brigade. C'est un plus. Pour moi, c'est un plus. Alors pourquoi ? Notamment sur...
Des interventions chez les particuliers, non ?
Voilà, chez les particuliers et des interventions pour secours à victimes. Vous avez ou quelqu'un qui va être peut-être agité, qui va peut-être dans l'angoisse, eh bien, une voix féminine, un abord de quelqu'un est peut-être plus rassurant, avoir les paroles apaisées, et ça, c'est un plus. Mais elles sont tout à fait aussi capables de nous suivre, de faire les autres interventions aussi.
Parce qu'elles font la même formation dont nous allons parler, d'ailleurs. Voilà. Alors, on a parlé aussi, ce qui m'a frappé, c'est de voir, en lisant quelques textes, que le matériel avait évolué, énormément évolué. Et maintenant, par exemple, dans la texture des vêtements, et puis les casques aussi, tout a changé.
Oui, alors, essentiellement... En prime abord, dans les années 85-90, exactement en 1985.
Oui, assez récemment, finalement.
Oui, assez récemment, le casque a évolué. Le casque a évolué, puisque au-delà du casque métallique que l'on avait, qui ne couvrait ni les oreilles, ni la nuque...
Et qui était lourd.
Et qui était un peu plus lourd, effectivement. Ce casque a évolué avec la maison Gallet. Beaucoup de corps de pompiers en France, donc tous les corps de pompiers en France, mais également à l'étranger, revêtent ce casque maintenant, et c'est un casque particulier que l'on voit maintenant sur la tête de tous les sapeurs-pompiers. Donc ça a commencé en particulier par le casque. Et ensuite, au fur et à mesure des années, on s'est aperçu que les interventions devenaient quand même de plus en plus particulières. Pourquoi ? Parce que l'intérieur des appartements se sont modifiés. On va mettre des doubles vitrages. On va mettre beaucoup plus de plastique à l'intérieur. Ça va être l'ordinateur, ça va être la télévision, ça va être les meubles. Ça, c'est un potentiel, ce qu'on appelle un potentiel calorifique, qui est très important. Donc, le potentiel calorifique a augmenté. Donc, j'approche, mais je veux aller aussi me protéger. Les appartements sont de plus en plus chauds, sont de plus en plus difficiles d'accès. Et donc, on va modifier également les tenues de feu, ce qu'on appelle la tenue de feu, donc la veste et le pantalon. On va commencer à se protéger aussi les jambes, parce que la chaleur arrive avec ces matériaux qui sont de plus en plus chauds, les appartements de plus en plus difficiles. Et donc, on a aussi maintenant cette tenue de feu beaucoup plus, avec des matériaux beaucoup plus...
Plus efficace et plus protectrice.
Tout à fait.
Pour terminer, je ne sais pas. Nous avons 2 minutes, Olivier Legal, pour me dire, pour nous parler aussi de la prévention et de l'éducation des risques dans de nombreux lieux publics ou de travail. Et je sais que dans l'établissement scolaire où j'enseignais, oui, il y avait chaque année des pompiers qui venaient et qui parlaient, qui expliquaient, et on faisait des simulations d'incendie.
Oui, alors, dans les établissements scolaires ou dans les entreprises, parce que ce n'est pas que dans les établissements aussi qui reçoivent du public,
oui, bien
mais
sûr.
C'est dans les établissements scolaires, vous le mentionniez, mais aussi également des entreprises, eh bien vous avez une obligation annuelle d'organiser ce qu'on appelle des évacuations.
Ouais. Donc, dans les grands magasins, j'imagine.
Voilà. Alors, les grands magasins, c'est plus difficile parce que vous avez du public. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire sonner une sonnerie.
De paniquer tout de suite.
Voilà, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans les magasins. Non, ouais, les magasins sont vérifiés par des commissions de sécurité régulièrement.
D'accord.
Sauf que dans les écoles, mais dans les entreprises, à ce moment-là, vous avez, les gens peuvent être avertis un petit peu avant. Et voilà. Et donc, vous avez des exercices d'évacuation qui se font de manière à pouvoir comprendre comment on peut évacuer le bâtiment.
D'accord. Olivier Legal, un grand merci. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.
Merci, Monique. À la semaine prochaine.